Les crises que nous traversons appellent une transformation radicale. Le Club 44 prend le pouls de ces métamorphoses. Sa programmation vous invite à réfléchir à l'état du monde et à explorer d'autres perspectives et d'autres modèles. En lien avec les conférences, le Club vous propose une série d'entretiens avec de prestigieux invités. Zone 44, un podcast du Club 44. Épisode 7, la transformation de soi avec la philosophe Claire Marin. Claire Marin nous invite à une exploration sensible de nos existences. Les ruptures, les débuts, notre identité, autant de questions qui agitent nos sociétés. En philosophe de l'intime, elle cisèle les moments charnières de nos vies. Elle éclaire avec une écriture limpide et très personnelle ces moments où nos existences vacillent, les bifurcations qui nous traversent. Dans ses essais, elle mêle philosophie et littérature pour nous inviter à des expériences presque physiques pour aller à la rencontre de l'autre, à la rencontre d'une altérité radicale. Elle interroge notre place dans un monde où la technologie envahit notre quotidien. La philosophe Claire Marin converse avec la journaliste Manuela Salvi.
Par où commencer ? Peut-être par « Bonjour Claire Marin ».
Bonjour.
Par où commencer ? Quelle première question ? L'improviser, la choisir pour donner le ton ? Comme un résumé d'une pensée ? Vous êtes philosophe Claire Marin et elle est passionnante, votre personnalité, la vôtre est subtile, dense, déroutante parfois. Ou comme dans les livres, dans la vie, il y a un début, des débuts ratés, des débuts qui annoncent un nouvel horizon, des débuts qu'on attend en vain. Vous explorez le territoire des débuts dans votre dernier essai. Mais qu'est-ce qui rend un début beau ?
C'est peut-être le sentiment de se découvrir dans ce début-là, d'être surpris par soi ou par quelqu'un qu'on pensait connaître, de voir quelque chose qui est en train d'éclore, c'est toujours assez émouvant.
Parfois, les débuts sont beaux parce qu'ils sont éphémères.
Oui, tout à fait. Il y a sans doute des événements ou des relations qui ont une temporalité très courte et qui sont peut-être d'autant plus intenses. Donc je pense que ce qui suit le début ne conditionne pas la beauté de ce qui est vécu.
Votre grand début, Claire Marin, vous avez un souvenir ?
Oui, je crois qu'il y a quelque chose dans les premiers moments où je commence à écrire toute seule, et former les lettres, et tenir le stylo. Et je me souviens de la difficulté, mais j'ai un souvenir assez net des premières scènes où je commence à former des lettres.
Le début, former des A, des B, des S, des L, ça deviendra un roman en 2008, bien plus tard.
Exactement.
Hors de moi.
C'était le premier texte écrit dans une langue un peu plus personnelle et peut-être moins académique que ce que j'écrivais auparavant dans un cadre plus universitaire.
Alors début, c'est court. Début, et ça peut tout changer. Un début, ça peut être un coup de dé, une bouteille à la mer qu'on lance.
Oui, exactement. Même la sonorité évoque un peu quelque chose de dynamique comme ça. Et il y a une espèce de pari dans les débuts. Rien ne va plus. On lance la roue et on voit où est-ce que ça nous mène. Et j'aime bien ce côté un peu du pari, qui est quand même un grand motif philosophique.
Donc, le pari de Pascal.
Exactement, c'est ça.
Alors, je me lance. On n'est pas du tout à la première question, mais on fait comme si c'était la première question. Si je vous dis kaléidoscope, Claire Marin, qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est l'un des mots que j'avais beaucoup de plaisir à prononcer quand j'étais petite. J'aimais bien les mots un peu compliqués, ce qui est un peu un biais familial parce que ma sœur avait une passion pour stéthoscope. Donc, il y avait une espèce de fierté à savoir dire des mots compliqués. Et après, ma grande passion, c'était l'étymologie. Donc essayer de découvrir d'où venaient ces mots si étranges avec des lettres qu'on n'emploie pas toujours. Et c'est toujours un jeu qui me réjouit de voir un mot dont je n'arrive pas à trouver l'étymologie. Je vais fouiller dans mon vieux dictionnaire qui est complètement en pièces. Et là, je comprends quelque chose de la profondeur du mot et c'est toujours un moment qui me fait vraiment une grande réjouissance intellectuelle.
Et presque un bouleversement.
Oui, parce que parfois, il se cache des sens derrière un mot qu'on ne soupçonne pas. Et là, tout d'un coup, les choses s'éclairent et ça prend une autre dimension, ça dit des proximités. Ce matin, je cherchais écorcher, Kia, ça paraît évident, mais je n'avais pas fait le rapport, un lien avec l'écorce.
Donc l'arbre.
Exactement, et tout d'un coup, on voit la proximité entre les vivants et le besoin de protection qu'on a tous.
On dit écorché vif aussi.
Exactement.
Mais kaléidoscope, c'est aussi quand on place son œil sur le kaléidoscope, on tourne d'un cran et les couleurs bougent, l'image bouge. C'est aussi l'idée du mouvement, la fascination du mouvement, de la mutation.
C'est l'idée qu'avec les mêmes toutes petites choses, on peut produire des réalités extrêmement différentes. Et l'idée aussi qu'on est parti d'un tout et qu'au sein de ce tout, notre place change. On y est toujours, mais on peut être à la périphérie, au centre. On peut être démultiplié par les miroirs ou presque effacé parce qu'on est juste dans un coin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être symboliquement représentées par ce jeu du kaléidoscope. Et puis, il y a aussi ce que j'aimais bien faire, c'est-à-dire essayer de deviner quelle couleur allait apparaître la prochaine fois, ce qu'on n'arrive évidemment jamais à faire. Donc, c'est ce rapport à ce qui est probable, qui était aussi quelque chose que j'aimais beaucoup en mathématiques, le calcul des probabilités, et ce qui est possible, ce qui est là en germe et qui surgit ou qui n'apparaît pas, cette surprise-là, c'est quelque chose d'assez fascinant.
Et vous avez aussi, Claire Marin, un bac scientifique et ensuite la philo, une passion pour la littérature. Vous explorez les mouvements de nos vies. Un livre, un nouveau livre, est-ce qu'il ouvre aussi sur un nouveau monde que vous explorez ?
Peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus porté sur l'avenir que dans les précédents où il s'agissait peut-être de savoir ce qu'on fait d'un passé qui peut être lourd, qui peut nous ralentir ou comment on réinvestit une situation du moment qui peut être difficile à supporter ou à vivre. Peut-être que dans les débuts, effectivement, on est d'abord dans un rapport à la temporalité qui est différent et quelque chose qui est sans doute plus ouvert que dans les textes précédents où il fallait tenir, en fait, face à quelque chose qui pouvait être une adversité, où il fallait interroger l'orientation qu'on allait prendre ou l'équilibre qu'on allait réussir à trouver.
Et là, vous évoquez Rupture, votre premier succès de librairie. Mais quand vous écrivez un livre, la première idée, la première intuition, d'où est-ce qu'elle vient ? Elle émerge d'où ?
Alors, en fait, c'est plutôt un moment où différentes idées, un peu comme de la maille de fer qui est attirée par un aimant central. Et il y a un moment où je vois pourquoi, en fait, je m'intéresse à des choses qui, en apparence, sont éloignées. Et je comprends le mot qui les rassemble, ou l'image, ou le mouvement qui leur est commun.
Vous tirez le fil.
C'est ça. Mais il n'y a pas quelque chose comme une progression. Il y a plus un moment où la forme se dessine un peu comme les jeux pour enfants, où on a des points et on doit les relier. Puis une forme émerge d'une certaine manière de les mettre en lien.
Donc il y a quelque chose de visuel, de graphique. Vous dessinez en fait votre livre ?
C'est toujours très graphique. Je fais toujours beaucoup de schémas. Je travaille beaucoup au brouillon sur le papier, je rédige aussi sur le papier. Et j'ai beaucoup de feuilles qui sont des... Aujourd'hui, on appellerait ça des cartes mentales, en fait. Mais j'ai toujours appris et pris des notes de cette manière. Donc c'est assez peu linéaire. Ça a l'air d'être réparti n'importe comment dans l'espace de la feuille. Mais pour moi, il y a un ordre. Finalement, je crois qu'il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre du rhizome, plutôt que d'un chemin de fer bien linéaire.
Je confirme effectivement, par exemple, dans Être à sa place, on peut picorer les chapitres. Si on ne les picore pas dans l'ordre, on comprend parfaitement le propos. Pêle-mêle, c'est un mot qui vous conviendrait dans votre manière de travailler ?
Oui, c'est même très joli par rapport à celui que j'aurais tendance à employer. Moi, je travaille dans une sorte de désordre, malgré toutes mes tentatives pour bien organiser les choses. Et en fait, des choses naissent de la collision des différents intérêts. Mais ça a longtemps été un vrai problème quand je voyais les grands systèmes philosophiques de Hegel ou de Kant. Je me disais, mais comment on peut réussir à mettre les choses en ordre de cette manière ? Mais je pense que je suis plus dans une manière de penser qui est fragmentaire et j'arrête de lutter contre cette tendance-là.
Vous êtes une philosophe de l'intime, hein, Claire Marin. Rupture, la place de chacun dans la société, dans le monde, la place intérieure aussi, les débuts, hein, par où commencer. C'est comme ça qu'on a d'ailleurs commencé cet entretien. Vous explorez des questions troublantes, vertigineuses parfois, et vous vous appuyez sur des écrivains, des philosophes aussi, mais des écrivains, dans ce pêle-mêle fécond, pour reprendre le terme, la littérature, qu'est-ce qu'elle permet de plus ? Qu'est-ce que permet de plus la fiction ?
Elle permet d'éprouver, elle permet de ressentir la même chose que les personnages.
Éprouver, ressentir sont des mots importants pour vous.
Oui, 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 parce que moi, je pense que lire, c'est déjà être dans une expérience physique. Et souvent, d'ailleurs, on aime lire dans des postures où on peut justement se laisser happer par une autre sensation ou une autre émotion que celle qui serait la nôtre dans une posture qui exige un peu de tension ou de présence. Donc il y a quelque chose, je crois, de l'ordre d'être dans la peau de l'autre. Et moi, c'est ce que j'adorais dès l'enfance, c'était cette idée de vivre à travers le personnage des situations à des époques que je ne pourrais jamais vivre, dans des lieux, dans des configurations familiales ou amicales ou politiques multiples. C'était vraiment toutes ces autres vies qu'on pouvait pressentir vraiment à travers la littérature. Je trouvais ça absolument fascinant.
Vous illustrez aussi vos essais par des moments personnels. Vous racontez des moments de votre vie, c'est assez rare. Parce que vous êtes quand même philosophe, hein, de formation mathématicienne, enfin, bac scientifique. Est-ce que ce choix s'est imposé à vous ou c'est parmi vos papiers, vos post-it, pouf, il est sorti écrit des moments de ta vie ?
Non, en fait, ce qui a toujours existé, c'est que j'ai toujours eu des carnets où j'écrivais des choses qui n'avaient pas vocation à être publiées. Et puis j'écrivais des articles philosophiques. Et hors de moi, le premier récit que j'ai publié, c'était quelque chose de personnel que j'ai écrit sans avoir trop conscience qu'il pourrait être publié et qu'il a été. J'ai eu de la chance et des encouragements précieux pour cet ouvrage. Et une fois finalement que j'avais un peu entrouvert cette porte de parler de quelque chose qui m'était arrivé pour en réalité parler d'une expérience que beaucoup faisaient.
Où il y a quelque chose d'universel.
Voilà, l'idée, c'était pas tant de raconter mon expérience à moi, et c'est la raison pour laquelle j'ai gommé finalement tous les référentiels qui étaient très précis, puisque c'est un texte sur l'expérience de la maladie et de l'hospitalisation, et la maladie n'est pas nommée, et beaucoup de lecteurs qui avaient des expériences très différentes de la mienne, à des âges très différents, m'ont dit s'être reconnus dans cette description de ce qui est plutôt une situation d'épreuve de la vie. Les moments où éventuellement je me réfère un peu à des choses personnelles, c'est parce que je pense que ces événements peuvent résonner pour d'autres. Et il ne s'agit pas tant de faire une philosophie qui serait très égocentrée, que de se demander ce que nous fait la naissance d'un enfant, ce que nous fait...
On l'a dans les débuts.
Exactement. Ce que ça peut faire de changer de milieu social, ce que j'ai aussi beaucoup vu avec les étudiants qui ont été les miens en banlieue parisienne. Donc, toutes ces choses-là, c'est effectivement des choses qui ont traversé ma vie, mais l'idée n'est pas de raconter la mienne.
Votre marque de fabrique aussi, Claire Marin, votre signature, c'est celle de vous mettre en jeu, mais aussi une écriture simple. En quoi est-ce important d'avoir une écriture simple à la portée de tous ?
D'abord, il me semble que c'est presque une politesse, en fait, de
s'adresser
à tous, parce qu'il me semble aussi que des grands auteurs auxquels je ne me compare pas, mais des grands auteurs ont su écrire simplement des choses extrêmement profondes et que par ailleurs, c'est peut-être un moyen à peine dissimulé d'utiliser quelque chose qui a longtemps été vécu comme une défaillance ou une lacune. Ma manière de parler, elle est assez simple, un vocabulaire très peu recherché, qui a l'avantage d'être compris facilement des élèves. Il y a aussi cette école-là.
Vous enseignez en banlieue parisienne.
C'est ça. Alors maintenant à Paris, mais très longtemps en banlieue parisienne. Et si on veut initier des jeunes gens à la philosophie et qu'on rajoute quand même à l'ambition de cette discipline la complexité des néologismes, des concepts abstraits, de termes qui ne sont pas forcément immédiatement clairs, on donne de la philosophie une vision effectivement très élitiste. Et ça, c'est exactement ce que je voulais essayer de défaire pour montrer en quoi elle résonne de manière très, très familière dès qu'on prend la peine de trouver un langage commun avec ceux auxquels on s'adresse.
Les ruptures, premier essai, La place, deuxième texte, Les débuts, c'est votre dernier, publié en avril 2023. Autant de questions qui agitent nos vies. Le fil que vous tissez entre ces trois, rupture, place, début, c'est quoi? C'est l'espace, le temps qui se trouble, son interruption par l'imprévu, la surprise, la quête, c'est ce qui forme une trilogie, ces textes.
Peut-être qu'à posteriori, on peut les voir comme ça. J'ai eu le sentiment, effectivement, de... à chaque fois d'aller creuser des pistes qui avaient pu être ouvertes au volume précédent. Et peut-être que plus spécifiquement, les trois derniers textes, il y a quelque chose comme des formes de rappel et d'approfondissement ou de prolongement de thématiques antérieures.
Donc, question de l'identité, c'est aussi un fil rouge, parce qu'au fond, on se redéfinit après une rupture, on se positionne, on se repositionne quand on pense à sa place, on repense des liens pour explorer de nouveaux horizons, la question de l'identité.
Oui, c'est ça. Je crois que... les ruptures qui sont évoquées dans le texte, qui sont des ruptures de vie, et qui d'ailleurs peuvent même être très intérieures et pas forcément identifiées, même par nos proches, elles touchent à un sentiment d'identité en crise, en fait, où elles produisent cette crise de l'identité. Et une fois qu'il y a cette fragilité ou ce doute intérieur, la question de la place devient très sensible. Quelle est ma place dans cette famille maintenant qu'elle est reconfigurée? Quelle est ma place dans cette société après cet événement qui a pu nous bouleverser? Est-ce que je veux encore vivre de cette manière? Où on retrouve des thématiques qui se répondent.
Mais c'est aussi, en plus de la question de l'identité, la question de la transformation, de la mutation, et c'est le thème des podcasts du Club 44, la transformation, la mutation.
Le mot dans les mots que j'aime bien, qui va dans ce sens-là, c'est le terme de métamorphose. Il est de passer d'une forme à l'autre jusqu'à la possibilité qu'il n'y ait a priori aucune reconnaissance possible entre la forme de départ et la forme finale.
Donc entre la rupture et le début de quelque chose?
C'est ça, entre qui on a pu être et la personne qu'on devient. J'avais travaillé quand j'étais jeune sur Hegel et sur... la question notamment de la plasticité. Et c'est quelque chose, cette idée qu'on est plastique, c'est-à-dire au sens étymologique qu'on change de forme. Je trouve ça très intéressant, à la fois d'un point de vue thérapeutique, quelles sont les formes ou les agencements intérieurs qui sont modifiés dans le fait de recouvrer une forme de santé, mais aussi les métamorphoses intérieures, c'est-à-dire comment... nos représentations se reconfigurent, comment on ouvre le champ, comment on passe de l'autre côté de la scène, du monde tel qu'on l'observait jusqu'alors. Donc tous ces moments où on change de rive, c'est une expression de Susan Sontag, mais je crois qu'il y a des épreuves de la vie qui nous font changer de rive et la perspective devient très différente, ça m'a toujours beaucoup intéressée.
Regarder le monde autrement, se vivre autrement, changer de place. Et vous le dites dans Être à sa place, Claire Marin, que nous serions plus des migrateurs que des enracinés. C'est-à-dire que la vie, c'est le mouvement, c'est la métamorphose.
Je pense que chacun se définit selon un schéma différent. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'enracinement. Mais je pense que l'époque nous pousse d'une certaine manière... à des déplacements qu'on peut vivre, ce qu'on peut vivre comme une contrainte ou ce qui peut apparaître comme une libération à ceux à qui l'enracinement pèse, ce qui est plutôt mon cas. Maintenant, voilà, je...
Vous êtes une fille du vent.
Je ne sais pas si on peut faire un jeu sur mon patronyme et faire un lien avec cette idée d'une fille du vent, mais il faut savoir voir le vent tourner, peut-être. C'est quelque chose qui évite d'être dans la stagnation et la répétition. J'ai fait ma thèse quand j'étais jeune sur la question de l'habitude, qui présente en fait ces deux aspects. Soit l'habitude, c'est une répétition monotone qui fait que je suis dans un mode très répétitif, jusqu'à presque désinvestir chacun des gestes que je peux faire. Mais c'est aussi ce qui, par la réitération, permet une transformation, une amélioration, voire la virtuosité. Donc, parfois, la manière de s'extraire d'un lieu, ça se fait par un mouvement qui peut avoir l'air de loin un peu répétitif.
Vous évoquez notre époque, Claire Marin, nos métamorphoses qui résonnent avec cette époque-là, enfin avec la nôtre d'époque, mais c'est la poule et l'œuf. Est-ce que c'est les transformations accélérées de la société qui nous impactent ou nous qui impactons la société? Comment vous voyez ça en tant que philosophe?
C'est sûr qu'il y a un mouvement qui est sans doute complexe dans l'interdépendance, des changements qui nous sont imposés, de ceux que nous avons nous-mêmes imposés, à la fois à l'environnement dans lequel on vit, aux structures sociales et politiques qui sont devenues les nôtres. Et puis il y a aussi évidemment la tentation de l'enracinement, de la clôture.
Du repli sur soi avec les identités un peu meurtrières, hein, comme le dirait Amin Malouf.
Oui, on peut tout à fait se référer à ce texte qui est très précieux, je crois. Et c'est aussi ce que dit Bergson quand il distingue les sociétés closes des sociétés ouvertes. Et il me semble que le mouvement de clôture est malheureusement assez évident avec toutes les tensions qu'il engendre. Et il faut retrouver quelque chose aussi du mouvement qui rend possible des ouvertures et quelque chose comme aussi l'intégration de la différence comme élément qui est dynamique au sein d'une communauté, d'un groupe, d'une société.
La différence, mais on pourrait aussi dire l'altérité, la présence de l'autre, la différence de l'autre avec un A majuscule, et là on peut citer Lévinas.
Oui, bien sûr, mais je crois que c'est quand même une très grande erreur de penser une altérité dans la stricte ressemblance. Il me semble que là, pour le coup, ce que comme un certain nombre de philosophes nous ont appris, c'est que sans l'autre, en réalité, on est vide, qu'on se construit dans cette intersubjectivité dans cet échange, y compris dans ce qu'il peut avoir d'un peu abrasif, il peut y avoir des résistances dans la relation aux autres, mais ces résistances aussi, elles nous font découvrir notre endurance ou notre combativité. Mais cette idée d'être dans le refus de l'altérité, c'est déjà une grande méconnaissance de soi, puisque nous sommes aussi intérieurement habités par de l'altérité. Donc,
nous avons des identités multiples.
Oui, on a des identités multiples et puis il y a des formes intérieures qui restent assez obscures, assez mystérieuses. Il y a quand même des moments où on a du mal à se comprendre. Une humilité honnête, ce serait de reconnaître que l'altérité, on la rencontre au quotidien, même dans la solitude.
Société close, vous évoquez Bergson, parce que repli identitaire, parce que montée des extrémismes, montée des souverainistes, mais à la fois aussi société complètement ouverte avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui ouvre des horizons totalement improbables et troublants. ChatGPT, l'intelligence artificielle pour tous, Midjourney, c'est pour vous une rupture pour reprendre le titre de votre premier essai? Ou le début de quelque chose, et ça c'est le dernier essai.
Alors, ça change des choses, c'est évident. La question c'est de savoir jusqu'à quel point ces outils, justement, vont vraiment ouvrir notre champ des représentations. Parce que...
Donc notre imaginaire.
Oui, et est-ce qu'ils participent ou est-ce qu'ils participeront d'un processus de création et d'innovation? Et si oui, quelle place sera la nôtre dans ce processus?
La question est essentielle. Cette intelligence artificielle pose la question de notre place. Quelle est notre plus-value? C'est un terme un peu économique, mais quelle est notre plus-value en tant qu'être humain?
Oui, parce qu'on a longtemps pensé que ce que les machines seraient incapables de faire, c'est tout ce qui était de l'ordre de l'usage intellectuel ou des productions intellectuelles. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, qu'il y a un certain nombre de travaux de rédaction qui sont exécutés d'une manière qui peut rapidement être efficace. Et sans doute que ces machines vont s'améliorer dans leur capacité à imiter des styles ou des manières d'écrire. Maintenant, la question, c'est de savoir jusqu'à quel point ce qu'on a connu avec des machines plus concrètes va se reproduire. C'est-à-dire, il y a quand même des formes de technologie qui ont fait des êtres humains un matériau. Donc, est-ce que nous allons être des matériaux au sens où tout ce que nous avons pu créer, y compris dans les domaines artistiques, devient un support à travers lequel d'autres créations seront imaginées par des machines. Et qu'est-ce qui restera de proprement humain ? Effectivement, ça me paraît assez inquiétant, à vrai dire. Mais j'ai du mal à... Disons que ça ne m'enthousiasme pas. Et peut-être que c'est une réserve qui tient, je sais pas, à ma génération ou à mon rapport aux machines et à l'ordinateur en particulier.
On rappelle vos cahiers, le dictionnaire en pièces, tout ce qui est physique que vous pouvez toucher vous rassure.
Oui, puis il y a une structure d'isolement qui est produite par les écrans et la machine, qui moi m'inquiète beaucoup parce qu'elle est d'une efficacité diabolique et dans une situation où on a besoin de liens réels, physiques, de présence partagée. La séduction de ces machines est de plus en plus grande. Et si elles sont non seulement ludiques, mais qu'elles sont aussi indispensables dans notre manière de travailler, qu'est-ce qu'on va encore faire l'effort de penser, de réfléchir par nous-mêmes ? On voit bien la facilité qui est déjà très répandue. En tout cas, l'usage... facile de ces supports pour rédiger des dissertations, des articles, des exposés et sans aucun doute des mémoires, peut-être même des thèses. Donc on peut se demander aussi s'il ne faut pas repenser le travail intellectuel sous une forme moins codifiée, plus libre,
qui sera plus créative,
exactement,
plus humaine.
Peut-être que ça peut faire du bien à certaines productions scientifiques ou intellectuelles de changer de forme, c'est le meilleur qu'on puisse envisager.
Mais et quelle est la place, quelle serait dans ce monde qui est un peu inquiétant, à la fois fascinant et inquiétant, quelle serait la place idéale de l'humain ? Parce que, est-ce qu'on est en train de la chercher ? Est-ce que les transhumanistes nous affirment que nous sommes imparfaits et que la machine va nous rendre parfaits ? Donc cette place, elle est où ? Sur une ligne de crête, selon vous ?
Alors moi, j'ai l'impression, mais il se peut que je me trompe complètement, que les transhumanistes, c'est déjà du passé. Parce que je crois que dans ce monde où la machine sera partout, la différence, l'exotisme, l'attrait, ce sera précisément pour les endroits où la machine ne pourra pas aller.
Donc l'humain, donc l'imperfection de l'humain, donc la fragilité de l'humain aussi.
La sensibilité, en fait, pas nécessairement la fragilité, mais voilà, tout ce qu'on est capable de percevoir avec une sensibilité qui, malgré tout, il me semble, ne se réduit pas à des équations. Et peut-être qu'à l'avenir, le vrai luxe sera de savoir faire des choses avec ses mains, de savoir reconnaître des choses par soi-même sans outils, sans prothèses informatiques, sans mémoire artificielle. Mais je pense que finalement, là où on verra précisément la trace de l'humain et on saura la reconnaître, c'est ça qui deviendra précieux, rare et peut-être luxueux même, d'être capable encore d'être dans un rapport direct sans l'intermédiaire de la machine, avec aussi toute la liberté que ça donne. Parce que c'est aussi ça, d'apprendre à être libre et à savoir s'orienter sans machine, à savoir... cuisiner, bricoler, sans être sans cesse rivé sur un écran. Peut-être qu'on redécouvrira le plaisir d'être seulement avec son corps, sans prothèse. Et puis l'autre chose quand même, sur la question du transhumanisme, il y a aussi cette grande hypocrisie du transhumanisme qui est de parler de prothèses qui n'existent pas. C'est-à-dire, moi je fais toujours cet exercice de comparer ces textes qui étaient proposés par les transhumanistes, d'interviews de médecins qui travaillent avec des patients amputés, qui doivent s'approprier des prothèses et qui mettent des mois et qui jamais ont la vitesse de certains sportifs qui se sont entraînés pendant des décennies avec des lames de métal. Et il suffit d'avoir quelqu'un près de soi qui a une prothèse de hanche ou qui a des prothèses auditives pour savoir à quel point on est loin d'un mécanisme qui serait vraiment quelque chose qui augmente nos capacités.
Une fusion homme-machine.
Oui, le corps vivant n'est pas très réceptif de tous les corps intrus. Donc, il faut bien se rappeler que la machine, elle est là par défaut. Et jusqu'à présent, les exemples où elle augmente nos possibilités sont quand même extrêmement rares.
Mais on peut citer Michel Serres qui, au moment de l'arrivée des smartphones, a dit « Nous déléguons notre mémoire à la mémoire de la machine ». Donc là, ça nous rend plus efficaces. Et là, on l'accepte parce que ce n'est pas à l'intérieur de notre corps.
Alors, je ne crois pas que ça nous rend plus efficaces. Parce que je mesure tout ce que moi, par exemple, je ne sais plus et que j'ai su à un moment. Et je mesure cette habitude dans les générations des plus jeunes de ne même pas se poser la question de savoir si on allait pouvoir retrouver
ça. Chercher dans sa mémoire ce qu'on sait déjà.
C'est-à-dire que la spontanéité est immédiatement de se fier à la machine pour trouver une information, y compris si on risque de tomber sur une information complètement fausse. Donc, ce que le support électronique produit, c'est aussi ce moment d'évaluation un peu critique où je vais vers une idée, mais je me dis non, ça ne doit pas être ça. Enfin, il y a tout ce petit moment de réflexion quand je cherche quelque chose dans ma tête qui n'existe plus. Et donc, la possibilité de l'erreur est quand même très, très forte. Et puis, malgré tout, faire usage de sa mémoire, je pense que ça a un effet sur aussi la longévité de notre vivacité intellectuelle. Ça ne suffit pas, il y a des pathologies qui entrent en ligne de compte, mais je crois que si on est déjà dans une forme de paresse dès l'enfance, alors j'ai bien conscience que je parle comme une déjà une vieille femme qui a l'air d'être aigrie, mais je m'inquiète de ce manque d'entraînement de la mémoire.
Ce manque d'entraînement de nos neurones qui nous éviterait effectivement certaines maladies dégénératives. Vous nous déroutez, Claire Marin, au sens philosophique du terme. Une machine, elle ne pourra jamais s'étonner comme un être humain. Et là, on est en plein dans l'exercice philosophique.
Elle pourra copier un humain qui s'étonne, mais elle ne connaîtra pas un premier étonnement comme un humain. C'est-à-dire, et elle ne connaîtra pas, encore une fois, le frisson de celui qui s'étonne devant, je sais pas, le premier arc-en-ciel qu'il peut voir ou la première fois où il voit de la neige. Et l'étonnement se rejoue, en fait. Donc, c'est une éternelle première fois face à certaines beautés naturelles. Et ça, je pense que ce que ça produit intérieurement, y compris physiquement, de plaisir esthétique, je pense pas qu'on puisse le reproduire si facilement.
On va terminer sur ce dernier frisson, donc sur des émotions très humaines, finalement.
Oui, je pense que c'est ça qui nous sauve encore et qui nous distingue de la machine, y compris dans ce qu'elle produise d'irrationnel et d'imprévisible. C'est aussi ça, finalement, notre capacité à surprendre en bien ou en mal qui nous définit, plutôt que de mettre l'accent sur la fragilité ou la vulnérabilité. C'est ce caractère parfois vraiment de surgissement de l'imprévisible, avec aussi toutes les possibilités inouïes, inespérées, impensées que ça laisse malgré tout apparaître à l'horizon. C'est quand même quelque chose comme un élément d'espoir dans ce caractère imprévisible.
Et on terminera sur cette note d'espoir. Claire Marin, vous nous invitez à emprunter d'autres chemins dans vos essais. Rupture, être à sa place. Les débuts, le prochain, vous l'avez déjà en tête?
Le prochain s'intéressera à la question du toucher et de la peau et de ces enveloppes qui nous entourent.
humain, très humain. Merci infiniment, Claire Marin, de vous être prêtée à l'exercice de ce podcast.
Merci à vous.
Le 9 décembre, Claire Marin a donné une conférence au Club 44 intitulée « Être à sa place, habiter sa vie, habiter son corps ». Vous pouvez écouter cette conférence en libre accès sur notre site internet club-44.ch, rubrique médiathèque.